Sahara, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 30 juillet 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko est nommé Premier ministre et garde le portefeuille de la Défense. Brazzaville a finalement autorisé l'évacuation de l'opposant Jean-Marie Moukoko pour des soins en Turquie. 8 morts, dont un militaire à Béni en RDC, dans 2 attaques imputées aux rebelles ADF. Donald Trump évoque un possible report de la présidentielle, mais seul le Congrès a l'autorité de reporter les élections aux États-Unis. Le coronavirus a fait 17 millions de contaminations dans le monde. Les États-Unis ont dépassé les 150 000 morts. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a été nommé Premier ministre en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, dont il assurait l'intérim depuis son décès le 8 juillet. Jacques Aristide.
Considéré comme un proche du chef de l'État, Alassane Ouattara, et un pilier du régime, Ahmed Bakayoko, 55 ans, conserve le portefeuille de la Défense d'après un communiqué de la présidence. Il occupe ce poste depuis 3 ans, après avoir été ministre de l'Intérieur depuis 2011. Il est également maire d'Abobo, l'une des 2 communes les plus peuplées d'Abidjan depuis 2018. Son nom avait circulé comme présidentiable avant la désignation en mars dernier d'Amadou Gon Coulibaly comme candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle du 31 octobre. À la mort de ce dernier, Ahmed Bakayoko a été désigné pour assurer l'intérim à la primature. Hier, le conseil politique du RHDP, le parti au pouvoir, a officiellement demandé au président Alassane Ouattara de briguer un 3e mandat. Monsieur Ouattara a maintenu le suspense, disant qu'il annoncerait bientôt sa décision.
Au Nigeria, 4 morts dans une attaque djihadiste à Maïdougouri, alors que les habitants se préparaient pour les célébrations de l'Aïd al-Adha. 3 roquettes ont été tirées depuis l'extérieur de la ville, tuant 4 personnes et faisant 3 blessés, a déclaré la direction de l'agence locale de gestion des urgences. En Guinée, libération de 22 personnes arrêtées lors d'une manifestation contre les coupures d'électricité dans l'est du pays. Ces jeunes ont été arrêtés le 21 juillet lors d'une manifestation à Kankan, fief du président Alpha Condé en Haute-Guinée. De violents heurts avec les forces de l'ordre avaient éclaté et plusieurs personnes avaient été blessées. Les autorités de Brazzaville ont autorisé l'évacuation par avion médicalisé vers la Turquie de l'opposant Jean-Marie Moukoko. L'avion transportant le général, son médecin et 3 agents de sécurité a décollé de Brazzaville, a indiqué son avocat. Candidat malheureux à la présidentielle de 2016, il a été condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État en 2018. Monsieur Moukoko a été admis à l'hôpital militaire de Brazzaville le 2 juillet. Nous y reviendrons dans la rubrique des dossiers. En République démocratique du Congo, 8 morts, dont un militaire à Béni dans le Nord Kivu, dans 2 attaques imputées aux rebelles ADF. Eric Manirakiza.
Selon Mohindo Isaya, un responsable administratif local, les ADF ont attaqué le village Kainama dans le secteur de Beni Mbaou et 6 civils ont été tués. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs maisons ont été incendiées. Le village est vidé de ses habitants qui ont fui dans la forêt, a-t-il ajouté, précisant que l'armée régulière a investi les lieux. Au cours d'une autre attaque menée mercredi, 2 militaires sont tombés dans une embuscade. Un soldat et le motard qui transportaient les militaires ont été tués, a affirmé Wilson Paluku Batoleni, président de la société civile dans le secteur de Rwenzori. L'armée qui poursuit ses opérations contre les ADF depuis fin octobre 2019 à Beni n'a pas fait de commentaires sur ces incidents. Les ADF sont accusés par les autorités congolaises et les Nations Unies d'être responsables des massacres de plus de 1000 civils dans la région de Beni.
L'Union européenne a annoncé le lancement d'une mission de formation des forces de sécurité en Centrafrique qui sera opérationnelle le 9 août pour une durée initiale de 2 ans. La mission civile est étroitement coordonnée avec la MINUSCA et la mission de formation militaire de l'Union, déjà présente en République centrafricaine, dont le mandat vient d'être prolongé de 2 ans. En Tunisie, Rached Ghannouchi, le chef des NADA, a conservé son siège de président du Parlement après un vote sur une motion de défiance. Ses opposants, notamment le parti Destourien, n'ont pas réussi à réunir les 109 voix nécessaires pour l'écarter du perchoir. Sur 215 députés, 133 se sont exprimés, dont 96 pour la motion. Le président tunisien Kais Saied et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ont rendu hommage à l'avocate franco-tunisienne Gisèle Halimi, qui est décédée mardi en France à 93 ans. Figure de proue du mouvement féministe, Gisèle Halimi a aussi défendu l'indépendance de son pays natal, a souligné M. Saied. Son homologue algérien a salué un exemple de femme libre et courageuse. Les forces de sécurité au Zimbabwe sont en alerte maximum avant des manifestations interdites prévues vendredi par l'opposition pour protester contre la corruption et la crise économique, a prévenu la police. Aucune manifestation n'aura lieu le 31 juillet, a déclaré dans un communiqué le porte-parole de la police, Paul Niati.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de coronavirus a franchi un nouveau cap avec plus de 17 millions de contaminations dans le monde. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Au Nigeria, le virus se propage de manière exponentielle, a déclaré le ministre de la Santé, notamment dans les grandes mégalopoles de Lagos, Ibadan ou Abuja. Le pays le plus peuplé d'Afrique compte officiellement près de 41 000 cas, dont 860 morts. Les États-Unis ont passé le cap des 150 000 morts. Plusieurs États comme la Californie, le Texas et la Floride ont fait marche arrière sur la réouverture de leurs activités. Au Paraguay, le gouvernement a rétabli une quarantaine presque totale à Ciudad del Este, la deuxième ville du pays à la frontière avec le Brésil et l'Argentine. Malgré la hausse des cas, le Brésil a rouvert ses frontières aériennes aux étrangers pour relancer l'industrie touristique. En Europe, les Britanniques testés positifs ou présentant des symptômes devront dorénavant s'isoler 10 jours. Au Japon, la gouverneure de Tokyo a appelé les restaurants, bars et karaokés à fermer plus tôt et les autorités vietnamiennes organisent un dépistage massif sur 21 000 habitants de Hanoï qui ont séjourné dans une ville touristique.
La Floride a enregistré un record du nombre de morts en 24 heures pour le troisième jour consécutif. L'État américain a déploré 253 décès et près de 10 000 nouveaux cas en une journée. Au total, plus de 6 500 personnes sont décédées du coronavirus en Floride, où ont été diagnostiqués plus de 461 000 cas d'infection pour 21 millions d'habitants, soit une personne sur 50. Michelle Bolsonaro, épouse du président brésilien, a été testée positive au coronavirus, a annoncé la présidence. Quelques jours après que Jair Bolsonaro ait indiqué être rétabli de sa propre contamination. Le président américain Donald Trump a évoqué l'hypothèse d'un report de l'élection présidentielle du 3 novembre, mettant en avant les risques de fraude liés au vote par correspondance dû à l'épidémie de Covid-19. Abdourahmane Dia.
Dans un tweet, le président américain écrit que 2020 sera l'élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l'histoire, avec le recours élargi au vote par correspondance pour le scrutin du 3 novembre. Ce sera une véritable honte pour les États-Unis. Reporter l'élection jusqu'à ce que les gens puissent voter normalement en toute sécurité, a-t-il ajouté. Seul le Congrès a le pouvoir de décider du report d'une élection présidentielle. Plusieurs États américains veulent rendre le vote par courrier plus accessible afin de limiter autant que possible la propagation du Covid-19. Nombre d'entre eux autorisent ce système de vote depuis des années et n'ont pas signalé de problème majeur à part des incidents isolés. Ce n'est pas la première fois que le président évoque le spectre de fraude massive. Ses propos sur ce thème ont poussé fin mai Twitter à signaler pour la première fois l'un de ses tweets comme étant trompeur. Lors d'un point de presse à la Maison-Blanche, le président avait catégoriquement écarté l'hypothèse d'un report.
En Afghanistan, un attentat à la voiture piégée a fait au moins 17 morts et 21 blessés au sud de Kaboul. Il y a des civils et des soldats parmi les victimes, a indiqué le chef des urgences de l'hôpital de Pulialam, la capitale de la province de Logar. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
L'économie américaine s'est contractée de 32,9% d'avril à juin, la pire baisse jamais enregistrée. C'est la première fois en 11 ans que l'Amérique est plongée dans une récession, mettant ainsi fin à la plus longue expansion économique de l'histoire des États-Unis. Une récession est définie comme deux trimestres consécutifs de baisse du produit intérieur brut. Entre janvier et mars, le PIB des États-Unis a diminué de 5%. L'État bissau-guinéen, par le biais de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé un peu plus de 10 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA à l'issue de son émission d'obligations assimilables du Trésor à 3 ans. L'État de Guinée-Bissau a mobilisé l'épargne des personnes physiques et morales pour assurer la couverture de ses besoins budgétaires. Malgré la crise sanitaire du coronavirus, le groupe Orange indique avoir connu une très bonne résistance grâce aux résultats enregistrés en France et surtout dans la région Afrique et Moyen-Orient. Dans un communiqué publié ce jeudi et relayé par Financial Afrique, l'opérateur français annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 0,3%.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les fans du basketball se réjouissent. La NBA reprend ce soir après une pause forcée de 4 mois et demi à cause du coronavirus. Le Utah Jazz et les Pelicans ouvriront le bal à 22h30 temps universel, suivi du choc de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers. Justement, LeBron James, pour qui le temps presse avec les Lakers, Kawhi Leonard et ses Clippers taillés pour le titre, Gianni Antetokounmpo, jamais aussi fort que cette saison avec Milwaukee. Ainsi se posent les favoris du championnat NBA qui reprend à huis clos à Orlando en Floride. Les prochaines semaines diront si les 4 mois et demi d'interruption dus au coronavirus ont eu un impact au point de rebattre les cartes pour les nombreux outsiders que sont Toronto, champion en titre, Denver, Utah, Houston, Miami ou encore Oklahoma City. Toujours en basketball, une enquête du média américain ESPN dénonce les conditions de vie dans les académies de basketball développées par la NBA en Chine. Cette enquête révèle que de jeunes joueurs sont physiquement maltraités et scolairement laissés à l'abandon. Un ancien entraîneur a déclaré à ESPN avoir vu un homologue chinois lancer un ballon au visage d'un jeune joueur et lui donner un coup de pied dans le ventre. Voir un enfant de 13 à 14 ans et son entraîneur de 40 ans qui le frappe, nous sommes complices, la NBA est complice, a-t-il dit. De nombreux entraîneurs ont dénoncé des châtiments corporels, notamment dans l'académie NBA de Xinjiang, la région où la Chine est accusée d'atteinte aux droits de l'homme contre la minorité musulmane ouïghour. La NBA a su avoir coupé les ponts avec le Xinjiang depuis plus d'un an, mais continue de gérer des académies dans les provinces de Shandong et de Zhejiang. En football, une enquête à l'encontre du président de la FIFA, Gianni Infantino, a été ouverte dans le cadre de l'affaire de corruption dite FIFA Gate. Le procureur fédéral suisse dit ouvrir une procédure pénale contre Infantino et le premier procureur du Haut-Valais, Rinaldo Arnold, pour abus d'autorité, violation du secret de fonction et entrave à l'action pénale. La semaine dernière, le chef du parquet suisse, Michael Lauber, a démissionné parce que mis en cause pour sa gestion du FIFA Gate et soupçonné de collusion avec M. Infantino. Michael Lauber, alors en charge de l'enquête sur le FIFA Gate, et Gianni Infantino se sont en effet rencontrés de façon informelle à plusieurs reprises en 2016 et 2017, soulevant des interrogations sur une éventuelle collusion.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En République du Congo, les autorités ont accepté que l'opposant Jean-Marie Mokoko quitte le pays pour se faire soigner en Turquie. Condamné à 20 ans de prison, l'ancien candidat à la présidentielle de 2016 avait besoin d'une évacuation sanitaire depuis le 2 juillet. Le gouvernement a accédé à la demande de ses avocats en affrétant un avion médicalisé. Les détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
C'est dans un avion médicalisé affrété par le gouvernement que le général Mokoko a quitté l'aéroport international Mayamaya à 11h28, heure de Brazzaville, a précisé à VO Afrique une source aéroportuaire. L'opposant de 78 ans a embarqué avec quelques agents de sécurité, mais sans son médecin personnel qui a été empêché de prendre le vol alors qu'il avait obtenu son visa pour la Turquie. Diagnostiqué d'un paludisme sévère et des problèmes cardiaques, le général Mokoko suivra les soins appropriés dans un hôpital à Istanbul, une destination moins attendue des Congolais qui voyaient plutôt la France ou le Maroc. Trésor Ndilakende, un membre de la société civile qui avait exigé cette évacuation sanitaire, s'est dit inquiet.
Son médecin traitant a été empêché de partir avec lui. Nous sommes très inquiets. Nous espérons qu'une fois arrivé en Turquie, que les autorités turques prendront toutes les dispositions nécessaires pour lui garantir les soins appropriés.
Maître Eric Yvon Ibwanga, l'avocat du général Mokoko, a pu assister à son départ de l'hôpital militaire où il était admis depuis le 2 juillet jusqu'à l'aéroport. Il témoigne de ses derniers instants.
Il m'a rassuré qu'il était combatif et serein. C'est vrai qu'il était fatigué par la maladie, ce qui est tout à fait naturel, mais il a un moral en acier, il reste constant, lucide, et il est bien évidemment, il faut remercier les autorités de notre pays qui ont accédé favorablement à la demande que le collectif des avocats a adressée pour demander l'évacuation du général Jean-Marie Michel Mokoko.
Condamné à 20 ans de prison, le général Mokoko a vu sa santé se dégrader très rapidement et les tractations pour son évacuation sanitaire à l'étranger ont duré presque 3 semaines. Pour l'opposant Paulin Makaya, lui-même ancien prisonnier, le général Mokoko doit librement suivre son traitement pour éviter qu'il soit toujours comme en prison.
Le général part en Turquie. La Turquie n'est pas un bon exemple en matière de droits de l'homme et de liberté fondamentale. Ça veut dire qu'en partance pour la Turquie, le Congo a exporté la maison d'arrêt à Istanbul. C'est ça la vérité, puisqu'il s'est fait accompagner d'un militaire qui a pour mission de regarder les faits et gestes. Pour nous, le plus important, qu'il recouvre sa santé.
La durée de son séjour en Turquie n'a pas été précisée, ni si les agents de sécurité congolais qui l'accompagnent devaient rester avec lui jusqu'à son retour au Bercail. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Sénégal, la Tabaski sera célébrée vendredi. Un rendez-vous crucial dans ce pays à majorité musulmane, où la pression sociale est insoutenable pour certains ménages. Plusieurs cas de suicide de chefs de famille qui n'ont pas les moyens pour honorer ce rendez-vous sont régulièrement relatés par la presse locale. Un reportage de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
Des moutons hors de prix, des obligations familiales intenables et une conjoncture accentuée par la Covid-19, les chefs de famille vivent un véritable calvaire à l'occasion de cette fête de l'Eid, particulièrement difficile à gérer, comme l'affirme Pap Ndiaye.
On est obligé d'acheter un mouton, de satisfaire les besoins de la famille. Et la pandémie ne nous arrange pas parce que les prix ont été doublés et tout, voilà. Si on voit comment évolue la société, faudrait pas laisser son enfant sur la marge, parce que de voir tous les enfants s'habiller et de voir son enfant ne pas avoir les mêmes les mêmes satisfactions que les autres enfants. Ça crée une distanciation sociale et c'est pas très bon. Donc, faudra tout faire pour satisfaire les besoins des enfants.
Et pour satisfaire les vœux des enfants, les mamans également se démènent comme ils peuvent pour venir en appoint. Fatou Seck estime que la pire pression sociale pour un parent est la sensation de ne pas pouvoir combler son enfant durant ce genre de fête.
Quand tu es mère de famille, ton vœu le plus cher est de voir ton enfant bien habillé comme les autres, de voir son père amener un beau billet à la maison. Sinon, les petits seront frustrés. Un adulte peut comprendre la conjoncture entraînée par la pandémie, mais un enfant, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'avoir tout ce que ses camarades ont. C'est pourquoi, maintenant nous les mamans, on n'entend plus que le chef de famille fasse tout. On essaie aussi de nous débrouiller pour que tous les besoins de la famille soient satisfaits, même si les temps sont durs.
Pourtant, cette pression pouvait être évitée si les gens se limitaient aux recommandations religieuses. C'est l'analyse de l'imam Ibrahim Aïdara qui affirme que la démesure de la société sénégalaise est à la base de la pression sociale qui entoure l'Eid.
Il n'est pas recommandé d'aller faire des prêts ou endosser des dépenses intenables qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses après la fête. Malheureusement, les Sénégalais ne se limitent jamais à ce qu'on lui demande de faire et en général, cela se perçoit dans la façon dont on aborde certains événements. On célèbre même des fêtes qui n'ont aucun rapport avec notre religion ou notre culture. La Tabaski est une fête qui doit être empreinte de sobriété. Alors les Sénégalais doivent éviter les dépenses grossières, les moutons hors de prix et se limiter strictement aux principes édictés par l'islam qui bannissent tout cela.
Année après année, la manière de fêter la Tabaski s'éloigne de plus en plus des recommandations religieuses. Le côté faste de la célébration est mis en avant, créant ainsi des tensions financières chez les moyens nantis. Ces derniers se sentent souvent obligés d'assurer des dépenses faramineuses que ni la logique ni la religion ne cautionnent. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
À Madagascar, l'épidémie de Covid-19 a dépassé cette semaine la barre des 10 000 cas, dont 105 morts. Le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes augmente alors que le président malgache a vanté l'efficacité d'un remède sous forme de tisane. Le ministre de la Santé, qui avait demandé de l'aide pour faire face à la propagation du coronavirus, a été limogé. Claire Morin-Gibourg a joint une journaliste qui souhaite garder l'anonymat pour des raisons de sécurité.
Bien, écoutez, ce n'est pas un réel plaisir de le dire, mais le cas à Madagascar est assez alarmant. On est passé de 3 cas au mois de mars, et actuellement on a dépassé le cap des 10 000 cas actuellement. Les hôpitaux sont bondés, d'où la création de 4 nouveaux centres de traitement du Covid, rien que dans la capitale, Antananarivo. L'épicentre de la maladie se trouve d'ailleurs dans la capitale. Et nous en sommes à 21 régions sur les 22 qui sont touchées. Je peux vous dire que la période hivernale actuellement ne facilite pas les choses pour les malgaches. C'est un peu la psychose, car dès qu'on a une petite grippe, on se précipite dans les centres de santé, éventuellement dans les pharmacies, ce qui fait que certains médicaments demeurent introuvables.
Une certaine confusion règne dans les communications du gouvernement. Comment les autorités expliquent-elles l'augmentation des cas malgré la tisane prônée par le président de la République ?
Et oui, le ministre de la Santé a signé une demande d'aide d'urgence auprès de ses partenaires techniques et financiers. Une demande qui a été pointée du doigt par le gouvernement, selon son porte-parole, qui a classifié son homologue de la santé d'être dépassé par la crise. Récemment, le Premier ministre a remis les pendules à l'heure en faisant signer aux membres du gouvernement un code de conduite afin de sceller la solidarité gouvernementale qui est, je pense, un peu fragilisée et par la crise du Covid et par une crise interne.
Comment les Malgaches réagissent-ils à cette épidémie ? Croient-ils toujours aux vertus de la tisane présidentielle ?
Et pour ce qui est de la découverte de la tisane, je pense que les avis sont assez partagés au pays. Il y a ceux qui y croient fortement, il y a ceux qui restent prudents quand même. Ces derniers pensent que la tisane a été trop politisée. Évidemment, il y a des personnes qui témoignent avoir été guéries par le CVO, mais il y a aussi ceux qui en ont vu, mais qui ont été tout de même touchés par le virus, bien qu'on vante le caractère préventif et curatif du CVO. Juste vous dire que le Covid organique fait partie intégrante du protocole de guérison du Covid-19 dans les hôpitaux malgaches et également auprès des malades qui sont soignés à domicile.
C'était une journaliste malgache qui a souhaité garder l'anonymat pour des raisons de sécurité.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de la production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Côté Ngirania, l'ancien commandant de la garde présidentielle rwandaise, est recherché pour avoir participé au génocide de 1994 au Rwanda. En avril 1994, alors que des extrémistes hutus rwandais lançaient une campagne sanglante de nettoyage ethnique, Ngirania a dirigé le bataillon de la garde présidentielle. Il est accusé d'avoir joué un rôle clé dans la planification du génocide, y compris la formation des groupes militaires et la distribution d'armes. La garde présidentielle, sous le commandement de Ngirania, est accusée d'avoir assassiné le premier ministre Agathe Uwiringiyimana et 10 casques bleus belges, ses gardes du corps. Tout au long du génocide, la garde présidentielle rwandaise a été l'un des principaux moteurs des massacres et de la destruction. Pour ces crimes et d'autres, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, maintenant connu sous le nom de Mécanisme résiduel international pour les tribunaux pénaux, a inculpé Ngirania de génocide et de crimes de guerre et a émis des mandats d'arrêt contre lui. Les États-Unis coopèrent avec d'autres gouvernements, les Nations Unies et le mécanisme résiduel pour rendre plus difficile pour Ngirania et d'autres personnes recherchées pour meurtre de continuer à échapper à la justice. Pour atteindre cet objectif, les États-Unis offrent une récompense allant jusqu'à 5 millions de dollars pour les informations conduisant à son arrestation. Et si vous avez ou quelqu'un que vous connaissez a des informations sur les activités et la localisation de Portrait Ngirania, vous pouvez les fournir en toute confidentialité. Visitez le site web de l'ambassade ou du consulat des États-Unis le plus proche de vous pour contacter le bureau de la sécurité régionale. Envoyez un email au programme américain de récompense pour les crimes de guerre à wcrp@state.gov. Ou nous contacter sur WhatsApp au +1 202 975 54 68. Vous pouvez également visiter notre page Facebook à www.facebook.com/WarCrimesRewardsProgram ou nous suivre sur Twitter à www.twitter.com/WarCrimesRewards pour des photos des fugitifs recherchés. Tous les rapports crédibles feront l'objet d'une enquête et l'identité de tous les informateurs sera gardée confidentielle.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.